Et je pense que la ville d'art à Saint-Étienne nous amène aussi sur ce terrain-là. J'accueille maintenant Moura Dareg, qui est responsable culturelle au CHU de Saint-Étienne, et Patricia Preveux, qui est responsable du public au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole. Donc, je ne connais pas la ville d'art, mais j'en ai entendu parler. C'est un dispositif particulier dont ils vont nous faire part maintenant, qui est, on va dire, si non permanent, du coup, mais en place depuis 2 ans, je crois, et qui vont pouvoir, nous rapporter maintenant peut-être la genèse et puis les résultats aussi.
Tout à fait.
Moi, je vais juste introduire le débat. Juste pour dire un peu comment est né ce projet. Moi, je suis chargé de projets culturels, donc au CHU de Saint-Étienne. Mon métier, c'est de bien connaître mon établissement et ses problématiques. C'est la transformation, le multiple, d'avoir des points d'appui, des personnes qui s'intéressent, de faire en sorte qu'il y en ait d'autres. C'est un CHU, c'est une ville. Et puis évidemment, de bien connaître aussi les structures culturelles de mon territoire et les programmations qu'ils font, les gens qui les animent, en l'occurrence Alexis Meillon aux mains. Il se trouve qu'on parlait de durée et de confiance dans les relations. Et c'est vrai qu'il y a eu un projet qui est né en 2012 déjà avec le musée et puis une artiste stéphanoise qui avait donné lieu à des ateliers et puis une monstration au MAM. Ce que disait Séverine sur le résultat, ça avait posé la question du statut de l'œuvre. Hein. Est-ce que ces œuvres étaient des œuvres ou des copies du travail de Stella, en l'occurrence. Bon, bref, il y avait cette historique-là. Et puis, régulièrement, je me déplace. Et puis, Alexis Méon, qui est un médiateur du musée, souvent, on parcourt les expositions ensemble. Bref, on essaye de ne pas rester trop sur nos chaises, pour pas avoir des idées qui poussent trop la chaise. En tout cas, les expositions sont souvent des sources d'idées, enfin, le mouvement. Et il se trouve qu'en 2015, il y a eu une exposition qui s'appelait Volumé dans le musée, et avec une série d'installations de petites maisons, une douzaine je crois, toutes sur un format identique dans lesquelles on pouvait rentrer, qui était à peu près à taille humaine. Et il y avait autant d'artistes qui les avaient investis différemment, chacun à leur manière. Et ça a fait un tilt, quoi. Tout de suite, avec Alexis, on s'est dit, mais ça serait génial d'avoir un espace comme ça au CHU, un espace satellite, qui puisse être ouvert plutôt aux artistes. Ensuite, évidemment, le projet, il a fallu naturellement qu'on le partage, et il a pris d'autres voies, et tu vas peut-être nous reparler du déroulé du projet. Je
travaille. Okay. Donc, du coup, effectivement, il y avait la possibilité de travailler avec un artiste qui avait déjà été exploré. Il y avait la possibilité de travailler avec les collections et des œuvres originales du musée. Et finalement, c'est un autre chemin qu'on a choisi, qui a été de travailler plutôt sur des contenus de médiation culturelle. Donc, vous verrez, j'insisterai un peu plus tard là-dessus. L'idée étant pour nous d'avoir à la fois un accès à des œuvres d'art, mais en direction de publics éloignés, qui étaient en l'occurrence pas tellement éloignés du musée, parce que j'insiste sur ce contexte géographique qui est très important dans la naissance du projet. On est à 5 minutes en voiture, 3 stations de tram. Donc l'idée de présenter des œuvres originales aussi, on s'en est affranchi dans la mesure où les œuvres étaient visibles en salle à quelques minutes, très facilement. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a pris ce parti de travailler un peu autrement.
Et tu n'aimais pas l'idée de reproduction aussi?
Oui, mais pourtant...
Non, mais c'est une blague, mise à part. Parce qu'à un moment donné, je crois
en fait,
que...
En fait, voilà, on n'est ouais. pas parti... Vous verrez, ouais, vous verrez concrètement, on va laisser un peu suspense
ça,
au fur et à mesure.
Ça a sinué, quoi.
Voilà, il y avait évidemment un intérêt aussi commun pour une expérience, puisque là, on est allé sur un terrain qui, côté CHU comme côté musée, était complètement terra incognita. Hein, on s'est vraiment un peu la jetée à l'eau sur quelque chose d'autre. Qu'on n'avait jamais essayé ensemble
oui,
sous cette
oui,
forme.
C'est sûr, oui, c'est
voilà. Et puis, il y avait aussi le contexte de l'anniversaire des 30 ans du musée, avec nous, une incitation forte à faire sortir le musée de ses murs. Voilà un peu pour vous poser rapidement le contexte. Les objectifs, c'était vraiment, on était dans une logique vraiment de sensibilisation à l'art. Donc, être plutôt dans une forme de premier contact, première approche, à la fois une approche qui soit très... on va dire sensible, direct, pas du tout une approche histoire de l'art, mais plutôt le plaisir, le rire, l'imagination, l'évasion que peuvent procurer les œuvres d'art. Et puis aussi l'idée d'avoir un espace qui soit un peu un espace de repos,
ouais.
de refuge, un peu d'évasion au cœur même du CHU, puisque dès le début, l'idée c'était d'être vraiment dans les murs du CHU. Voilà, l'idée c'était aussi, dans la mesure du possible, de peut-être faire germer l'idée parmi certaines personnes de venir voir les œuvres au musée en vrai. Ça, c'était le scénario, on va dire, très lointain, très idéal, mais ça n'a jamais été l'objectif premier du projet. Et puis, clairement, pour l'équipe aussi du département des publics du musée, aussi un peu aller nous chercher pour inventer une autre forme de médiation, puisqu'on ne fait pas la même médiation face aux œuvres que loin des œuvres. Et là, à plus forte raison, hors les murs, enfin voilà, on s'est mis pas mal de défis sur ce projet. Les publics auxquels on souhaitait s'adresser prioritairement, c'était bien sûr des personnes éloignées de la culture et qui, par des hasards de la vie, bons ou mauvais, peuvent effectivement transiter par le CHU. Donc il y avait forcément les patients, les familles, mais aussi les soignants.
Les soignants.
Parce qu'effectivement, c'est combien 5000 personnes
7000.
7000, voilà, qui travaillent au CHU. De Saint-Étienne, avec une approche à la fois ciblée pour les adultes et les enfants. On a travaillé dans la mesure aussi du possible avec une accessibilité renforcée. Les dispositifs, vous verrez, sont à hauteur pour des personnes en fauteuil. Il y a des dispositifs audio, tactiles et autres pour essayer de s'adresser vraiment à différents publics.
Donc, ce que je voulais juste rajouter, c'était effectivement ce côté sensible a été un point assez important qu'on a évoqué, parce que évidemment le musée d'art moderne a une image, on peut dire, plutôt élitiste, plutôt cérébrale, enfin bref, plutôt inaccessible en tout cas, repoussoir. Et l'idée c'était de créer un espace satellite qui invite par des éléments assez ludiques, on dit toujours ce terme-là, bref, en tout cas assez joueurs, qui dédramatise. Et puis un espace qui invite à l'évasion.
Tout à fait. Donc, je vais avancer un petit peu plus vite sur le dispositif. Donc, on avait défini en accord avec le CHU une emprise de 10 mètres carrés au sol, en se disant que ça serait dans le hall AB du CHU, puisque c'est un lieu de passage très intense.
Ouais, c'est un très grand hall type hall de gare, avec du verre, de l'acier, et puis très très grande hauteur de plafond, donc intéressant pour installer des choses, parce que c'est vrai qu'il y a de l'espace, et puis il y a beaucoup de passages.
Et donc l'approche qu'on a choisi de travailler, comme on est à Saint-Étienne, et que vous le savez sans doute, Saint-Étienne a un ancrage fort dans le design, et c'est un des points forts du territoire, l'idée c'était aussi de travailler bien sûr avec des designers sur ce projet. On était parti sur une durée d'installation d'un an, et le projet nous a occupé dans les faits pendant plus de 3 années.
L'idée a démarré en 2015. On a commencé à parler de cette idée en 2015, fin 2015, elle a été réalisée fin 2017.
Et là,
elle est encore en cours.
Il y a une étape préparatoire, on va dire, pour la maturation en fait du projet, qui a été importante pour nous avec la Cité du Design, puisqu'on a travaillé pour affiner un peu notre concept avec des chefs de projet design. Donc on a fait des ateliers tels que vous pouvez les imaginer, voilà, qui nous ont permis de définir donc 3 valeurs, le refuge, l'hospitalité et la stimulation. Et c'est à partir de là que du coup le projet a vraiment pu être construit. Le fait de travailler avec la Cité du Design nous a aussi permis bien sûr de voir plus clair sur la commande, sur le chiffrage aussi, qui nous a ensuite permis de voilà, enclencher la partie plus administrative, demande de budget, cahier des charges, etc.
Sur ces groupes, évidemment, il y avait un mélange à la fois de personnel du musée, de médiateurs, et de personnel de l'hôpital de tout type de profession.
Le processus de travail, bon, forcément, la partie administrative, on a rédigé un cahier des charges. On a collaboré avec des designers qui ont essayé de prendre en compte du coup les différents enjeux et les complexités du projet, parce qu'à ce côté, c'est intime, mais c'est au cœur d'un CHU. Mmh. Ça doit être attractif, mais ça doit être solide. Ça ne doit pas être compliqué à entretenir. Enfin, on avait vraiment un cahier des charges quand même assez, assez complexe.
Beaucoup de normes de sécurité aussi, forcément.
Donc l'appel d'offres a finalement été remporté par Inclusive Design, qui est un collectif de deux designers stéphanoises, parce qu'elles avaient principalement proposé une étude d'usage. Ça, c'est aussi une démarche du design particulière qui est très portée par l'École d'art et de design de Saint-Étienne. Les études d'usage, c'est un peu confronter nos idées in situ. Donc, ce n'est pas le designer dans son bureau tout seul qui va imaginer quelle peut être la meilleure forme, mais il va sur le terrain, il rencontre des personnes. Et là, en fait, ils ont rencontré à peu près, elles ont rencontré 80 personnes
sur les deux lieux,
entre le musée et le CHU, en leur proposant en fait différents scénarios pour la bulle d'art. En gros, comment les personnes l'imaginent. Donc là, vous voyez, c'est installé, partie gauche, on voit le hall du musée, et partie droite, l'emplacement de la futur emplacement de la bulle d'art dans le hall AB.
Oh oui, et puis sur le côté, faire inciter les gens à réagir, elles avaient des médias, voilà,
c'est
des cartes, des matières à toucher, des couleurs, des choses qui étaient très instinctives en fait. Et elles ont une facilité à rentrer en contact avec les gens qui est vraiment intéressante.
Donc là, vous avez un exemple des quatre scénarios qui avaient été travaillés, plutôt botanique, plutôt aéronautique, plutôt bivouac et plutôt architectural, avec aussi des cartes formes, il y avait aussi des cartes matières, etc. Les formes en fait, qui ont obtenu le plus grand pourcentage, c'était le côté botanique, une forme on va dire organique, la matière bois et dans des tonalités naturelles, et c'est à partir de ça du coup que le projet a été designé. Sur la partie financement, dès le début le projet a été cofinancé par le musée, le CHU, dans le cadre effectivement de votre subvention annuelle de l'ARS. En cours de projet, on a également eu le label « Le musée sort de ses murs » avec une subvention exceptionnelle du ministère de la Culture.
Il n'y a pas que l'ARS, hein. Il y a la DRAC aussi.
Hein. Mais oui, mais la DRAC est aussi.
Et puis il y a aussi Interstice, et puis il y a aussi la région. La région lyonnaise n'est pas là, donc on s'en fout.
Si tu veux faire la liste propre des financeurs.
Et la ville de Saint-Étienne.
La métropole.
Et oui, mais la ville aussi subventionne notre dispositif.
Là, je suis désolée, je n'étais pas au point complètement sur les financeurs. Il faudrait que je revoie ma copie pour la partie ARS, mais à coup pas. Donc, la bulle d'art a été inaugurée le 8 décembre 2017. C'était le jour anniversaire quasiment des 30 ans du musée. Donc là, vous avez une vue du dessus. Et puis, je vais rentrer maintenant un peu plus sur les dispositifs de médiation pour que vous voyez concrètement un peu ce qu'on a imaginé. Donc, je le redis une dernière fois, c'est bien sûr en lien avec les œuvres de la collection du musée et en lien avec les œuvres qui étaient présentées à ce moment-là dans les salles. Vous savez peut-être qu'à Saint-Étienne, l'accrochage est renouvelé chaque année. Donc il y a plein d'œuvres en fait qui ne sont pas visibles en permanence. Donc là, ça connectait vraiment avec ce que les visiteurs pouvaient aller voir en salle. Une approche ludique, originale de l'art moderne et contemporain. Vous verrez, on n'est pas du tout dans une approche histoire de l'art. On est même allé le plus loin possible contre ça. Et puis un aspect sensoriel aussi qui est très, très important, qu'on a travaillé le plus possible. Donc ça durait effectivement un an en lien avec l'accrochage de la collection. Alors, premier dispositif qu'on a présenté, c'est un jeu de famille. En fait, vous voyez, il y a des cylindres qui sont à hauteur d'enfant et qui donc permettent de manipuler et recréer des familles. Il y a 5 visuels, il y a un petit texte à gauche, et puis après, donc, les familles peuvent être créées. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des familles d'œuvres, mais qui n'étaient pas du tout des familles d'histoire de l'art. On n'est pas dans des approches chronologiques ni esthétiques. C'est plutôt... c'est très visuel. Donc, c'est des familles d'une couleur ou des œuvres brouillonnes, des œuvres très structurées, avec vraiment un ton décalé humoristique. Je vous donnais quelques exemples de familles. On avait la famille compas dans l'œil, la famille mono, la famille désordonnée, enfin, voilà. Et c'était vraiment très visuel. Donc, je vous en montre un exemple. Vous voyez en fait sur la partie du bas, toutes les œuvres géométriques, où en fait, voilà, on balaye de l'art allemand, de l'art suisse, du néo-géo américain. Il y a des artistes français avec des œuvres en néon. Enfin, voilà, on est vraiment hors catégorie, hors courant. Simplement, voilà, il y a cette approche géométrique et du coup, c'est à chacun d'aller chercher comme ça un peu à recréer la famille. On a aussi créé des dioramas. Ça, c'est un petit clin d'œil au musée d'histoire naturelle. Avec, en gros, on imagine, là, c'est à partir de l'œuvre de Fernand Léger, la partie de campagne. Qu'est-ce qui se passerait si l'œuvre se passait ailleurs? Donc, on est allé chercher des morceaux d'autres œuvres. On s'est un petit peu amusé à réinventer l'œuvre.
Décontextualiser.
Oui, c'est ça, décontextualiser. Et puis, voilà. Pour en fait, voilà. D'une certaine façon, guider le regard sur l'œuvre originale, on est allé montrer ce que pourrait être cette œuvre traitée autrement. En gros.
En même temps, ça faisait des petites scénographies qui étaient assez rigolotes.
Oui, c'est assez rigolo. Ouais, puis on a pris pas mal de liberté. Là, j'avoue que bon. On a aussi travaillé sur un nuancier, où là aussi, l'idée, c'est d'avoir vraiment avoir une approche très sensorielle et très directe des œuvres. En fait, on s'est permis de classer les œuvres de la collection par code couleur. Donc, voilà. On a dans le rouge, donc vous voyez, on passe de Fernand Léger à Orlan, Joseph Albers, il y a du Buffet, Ancillac, Vostel. Donc là, pareil, on va en gros des années 30 aux années 2000, en passant par à peu près tous les courants esthétiques qui sont représentés dans la collection du musée. Vous revoyez là une vue générale avec à droite les jeux de famille, les nuanciers devant, et derrière, vous devinez, à l'intérieur de la vue d'art, il y a des projections. Deux films documentaires ont été réalisés à cette occasion, mais vraiment pensés là pareil pour le dispositif in situ, avec des références historiques et culturelles, mais là encore c'est une approche très poétique des œuvres qui est proposée, typiquement pour l'œuvre de Joan Miró, qui est une œuvre très bleue, avec des oiseaux qui sont presque juste des signes inscrits comme ça sur un fond bleu. On a demandé l'autorisation à la Fondation Miro pour faire une animation dans le fond. Enfin voilà, on a obtenu un accord, mais bon, voilà, on est quand même allé assez loin aussi sur notre jeu avec les œuvres et autour des œuvres. Donc là, c'est une vue de l'intérieur. Voilà, autre approche sensorielle, les murmures. Là, vous voyez, on peut s'asseoir, se mettre un peu au creux comme ça de l'oreille pour entendre les contenus.
On ne peut les entendre qu'à la condition d'être vraiment l'oreille collée.
Il faut vraiment se blottir, effectivement.
C'est vraiment des murmures.
Ouais. Et il y a cet aspect un peu, voilà, là aussi décalé de plein de définitions différentes de l'art par des artistes. Donc évidemment, il y en a plein qui sont contradictoires, il y en a qui sont absurdes, il y en a qui sont très drôles, il y en a qui sont très sérieuses. Et c'était aussi une façon de, là aussi, de dédramatiser pour que les personnes qui avaient accès à ces contenus se disent pas l'art c'est ça et c'est pas autre chose, mais en fait l'art ça peut être tellement de choses que voilà, autant ouvrir plutôt que poser des barrières. Et dernier contenu qu'on a travaillé, la matériothèque, qui présente, vous voyez, trois matériaux, plastique, métal et bois. On tenait en fait à cet aspect tactile qui était un peu le dernier aspect qu'on n'avait pas suffisamment travaillé, donc, à part l'odorat, qui reste quelque chose de très très complexe, en ayant là aussi une approche des œuvres orientées matériaux. Comme souvent, certains visiteurs, quand ils découvrent le musée, c'est une des premières questions qui vient, comment c'est fabriqué, quelle est la technique, etc. On a pris ce parti-là, en choisissant forcément des matériaux qui correspondaient à la période contemporaine. Le choix du plastique n'est pas anodin, c'est en référence aussi à toute la collection design du musée, à la période XXe siècle. Et pour chaque matériau, il y a trois textures différentes à découvrir, en lien avec trois œuvres aussi de la collection du musée. Donc voilà, le dernier exemple, là, c'est le bois que vous voyez, métal, etc. On a aussi fait des tests avec une offre de médiation in situ, à proximité de la bulle d'art, voilà, pour voir si ça pouvait être un besoin dans le hall du CHU. Beaucoup de médiation aussi, bien sûr, pour le personnel du CHU qui est venu régulièrement faire des visites au musée.
Qui ont été très prisés, pour le coup. Hein. C'est vrai que c'était une manière aussi... de faire en sorte que le public se déplace au musée, c'est aussi une dévocation de la bulle. Et c'est vrai qu'à chaque nouvelle exposition, on a proposé les samedis, vous avez proposé le fait qu'il y ait des visites spécifiques pour le personnel du CHU, elles ont été extrêmement vite remplies.
Oui, on a même pu en programmer d'autres, mais ça c'est vraiment bon signe, et ça c'était une belle dynamique,
ouais,
effectivement.
Bon,
je passe très vite sur le dispositif de communication. On a forcément déployé les les outils de com. Faut que je conclue. Ouais, je vais accélérer. Peut-être une info qui était importante, c'est que le projet, une fois qu'il a été labellisé, a été prolongé d'une année supplémentaire. Voilà, avec effectivement une évaluation qui a eu lieu en 2018 via l'université Jean Monnet, qui a fait un comptage, en fait, considérant qu'on touchait à peu près 5% des personnes qui fréquentaient le hall. Donc il y a des verbatims sympas, comme voilà. Là, on se dit, quand on voit quelque chose comme ça, que ça fonctionne bien et qu'il y a des personnes qu'on a pu toucher. Après, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on avait bien ciblées, donc tant mieux, on va passer vite dessus. Des choses qu'on avait moins pensées, mais ça, c'est l'intérêt de l'expérience aussi, c'est qu'effectivement, l'aspect circulation faisait qu'on avait cette consigne d'être dans l'espace de circulation, mais légèrement décalé. Et après, l'observation sociologique montre que voilà, ça invitait parfois à contourner plutôt que pénétrer dans le dispositif.
Disons que c'est un espace qui est traversant, et du coup, le fait qu'il soit un peu mis dans un coin, même s'il est extrêmement visible, oui, il fait quand même 3 par 3 au moins, enfin 9 mètres carrés, c'est quand même assez, c'est assez volumineux. D'ailleurs, les personnes de l'accueil, quand elles ont su que la ville allait partir, m'ont dit « Mais comment ça ?» qu'est-ce que ça allait être vide, quoi. Mais effectivement, d'un point de vue scénographique, je trouve que ça fonctionne moyennement bien, parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir cette perspective de... trouver un espace idéal à l'hôpital, c'est pas évident. C'est comme faire en sorte qu'un spectacle se passe dans l'hôpital. Trouver un espace idéal, c'est toujours un enjeu. Voilà.
Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, c'est une difficulté forcément qui n'est pas soluble a priori, mais que je voulais vous partager. Donc, on a travaillé ensuite sur la signalétique, on a refait une vitrophanie pour que ce soit plus, vous voyez, autour. Plus visible, des vues du dessus aussi, puisqu'il y a un café, donc ça permettait d'attirer d'autres personnes, le café étant à l'étage avec vue directe sur la bulle. Donc pour conclure sur ce projet, on est en train de travailler sur un livret de présentation du projet, qui va être en cours d'édition, mais voilà, l'événement sera post-élection. La bulle d'art va être démontée en 2020. Le bilan, c'est que c'est très intéressant, cette expérience qui a été menée, ça nous a vraiment forcé un peu à sortir... non pas qu'on soit dans une zone de confort, mais ça nous a forcé à vraiment penser d'autres formes de médiation, complètement inédites en tout cas pour l'équipe avec laquelle je travaille. C'était très chouette d'avoir la possibilité d'avoir ce contact avec les publics éloignés. Après, moi, un point sur lequel je reste sur ma faim, c'est l'évaluation qu'on a menée à donner des pistes, mais elle est restée trop générale. Et en fait, on manque un peu de matière concrète sur l'évaluation du projet. Donc là, si je me permets ce petit appel à contribution et à réflexion collective, comment on évalue des projets bien quand on a des projets qui sont dans le cadre de culture et santé sur 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'il advient après des liens qui ont été créés, comment ça a pu apporter quelque chose aux personnes de façon durable. On n'a pas d'outils là-dessus et pour moi c'est quand même, ça serait si j'avais une baguette magique, voilà, ça serait un de mes rêves, je dirais. Et puis voilà, pour continuer à travailler sur ces sujets-là, je pense que c'est quelque chose, enfin moi, à ce stade de notre réflexion, qui nous manque vraiment. En tout cas, voilà, c'est un très beau projet. Je suis contente d'avoir pu partager avec vous. Tu veux conclure ?
Non, c'est vrai que c'est vraiment difficile d'évaluer comment cette bulle est fréquentée. Moi, pour y passer assez régulièrement, je vois que parfois elle est vide, parfois il y a une les gens restent guère plus de 5 minutes à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de balayer l'ensemble. Parfois des gens plus intéressés, mais c'est vrai que l'évaluer vraiment, je ne sais pas comment faire. En tout cas. Quand j'en parle aux personnes de l'accueil, elles me disent que c'est dommage, elle va partir, les gens l'appréciaient.
Oui, tout à fait. Donc, c'est bon signe, mais.
C'est subjectif.
Voilà.
Mais,
juste sur cette question d'évaluation, moi aussi j'aimerais bien une baguette magique.
On est d'accord, mais je me permettais de le dire quand même.
Effectivement, on a justement un groupe de travail sur Interstice qui réfléchit à cette question.
Bah, super.
Parce qu'effectivement, je crois que les évaluations et les bilans qu'on remplit aujourd'hui ne sont certainement pas satisfaisants. En tout cas, ils ne vont pas assez loin. Après, c'est comment éprouver les nécessités de l'évaluation aux réalités du terrain et ce qui est possible de mettre en œuvre, avec aussi ces différences de temporalité et qu'effectivement, on n'évalue pas la même chose pendant le projet, à chaud après le projet, et peut-être quelques mois, voire même
quelques années, non mais tout à fait, on est d'accord.
Donc effectivement, c'est des réflexions, mais en plein temps, je regarde notamment Julia Lerouille de la Fondation OVE qui fait partie de ce groupe-là, Audrey aussi, pour le CRF. Donc voilà, on y travaille, et peut-être qu'il y aura un jour une journée sur ces questions-là.
Bon, de toute manière, l'impact, il est évident, je veux dire, dans le fait de rapprocher deux structures comme ça et de mener un projet de cette ampleur et de l'installer physiquement dans un lieu, on ne peut pas nier qu'il y a eu un impact fort. Quoi. Après, l'évaluer, c'est difficile, mais c'est ça. A changé, on peut dire que ça a changé la vie du CHU, enfin, c'est un grand mot, mais en tout cas, la vie de ce lieu, de ce hall. C'est évident que ça en a changé complètement la perception et je pense que ça a touché pas mal de gens, quoi. C'est évident.
Je suis désolée, mais j'ai d'aller en tourne et laisser un peu de temps à Joël Le Maire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce projet et qui effectivement est un très beau projet qui donne à rêver, enfin. Et des envies sur d'autres.
On a beaucoup rêvé dessus, nous, en tout cas.
D'autres territoires, d'autres établissements, effectivement, la question de l'évaluation est toujours un peu compliquée dans le cadre de certains projets. Je pourrais dire la même chose pour nous, pour les projets, je dirais, moi. Ça n'a pas été si simple que ça d'arriver à l'évaluer réellement sur d'autres projets comme chez nous.
Que va devenir la structure? Elle va être retirée.
En fait, cette question, on n'a pas envie de se poser. Parce que, justement, c'est une question, parce que j'ai vu le diplomatique, c'est ça?
Non, c'est pas du tout ça. C'est pas une question de diplomatie, effectivement, vu que sur, on va dire, l'aspect... entretien, contenu, etc. Ça a été porté beaucoup par le musée. Effectivement, il y a une vraie réflexion qui est menée en ce moment dessus, mais on ne sait pas du tout quelle suite. Voilà. C'est pour ça que j'avais essayé d'éviter d'en parler, mais je me doutais que la question viendrait.
La première question qu'elle pose, c'est qu'on ne voulait pas.
Je m'en doutais un petit peu. On est en réflexion. Elle va être démontée, clairement, parce qu'après, il y a aussi ce facteur dont on n'a pas parlé, qui est pour les patients et les familles qui ne sont pas tout le temps, pour la plupart d'entre elles, j'espère, à l'hôpital. Il y a un effet de nouveauté. Par contre, pour le personnel soignant, la difficulté, c'est qu'effectivement, ils la connaissent par cœur. Donc, ils ne s'y intéressent plus. Donc, il y avait un peu... C'est un peu les retours qu'on a eus.
Il y a cet effet d'usage
un peu voilà, étiré dans le temps avec les salariés. Et puis, voilà. Pour la suite, c'est en réflexion, mais il n'y a pas de décision prise. On vous donnera des nouvelles pour la suite.
Moi, si je peux juste compléter, c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène un peu d'usure. Au bout d'un moment, il y a un espace comme ça qui occupe toute une aile. Et puis, on a d'autres projets aussi à développer. Donc, c'est vrai que c'est bien que ça puisse bouger. Et puis, c'est intéressant qu'il y ait du mouvement.
Oui, qu'il y ait d'autres choses.
Non, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'au départ, on s'était donné quand même comme... dans le cahier des charges, ce n'était pas clairement dit, mais on l'a quand même clairement évoqué, c'était que cette bulle puisse se déplacer dans d'autres hôpitaux ou dans d'autres lieux, type gare ou je ne sais pas quoi. On avait rêvé un peu de ça. Donc, elle était normalement destinée à ça. Il se trouve que là,
il y a des réflexions, des discussions,
voilà.
On suivra ça.
Mais oui, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vos interventions.